les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un journal qui n'est pas ce que l'on qualifie traditionnellement de journal intime. En fait, très strictement, le journal d'un écrivain. Un journal qui renvoie à l'œuvre en train de naître et de ne pas s'achever. Qui renvoie aussi à des carnets qui, eux aussi, mais différemment, parlent de l'œuvre. L'histoire de la publication de l'œuvre littéraire et théâtrale de Musil est en soi une histoire musilienne. La publication de son journal aussi. Dans « Étranger, mon ami », Dominique Arban recevait Bernard Dort les 12 et 19 janvier 1982 sur France Culture.
Il faut que nos auditeurs se rendent bien compte, aujourd'hui et mardi prochain, que nous disposons de 2 quarts d'heure pour parler de 1700 pages, plus de l'œuvre de l'auteur de ces 1700 pages qui, elle, comporte nombre de volumes. Il s'agit de Robert Musil. On pense tout de suite à « L'homme sans qualité », au désarroi de l'élève Thurless, et pour la majorité du public qui aime lire en France, ce sont les 2 œuvres qui sont connues.
Il y a 2 pièces de théâtre, Les Exaltés et Vincent ou l'ami des personnalités, qui ont été peu joués, mais on a joué Les Exaltés en France, je crois que c'est Sacha Pitoeff qui l'avait joué, si je ne me trompe. Et puis, il y a aussi d'autres récits, une œuvre au titre très curieux, très, très musilien d'ailleurs, les œuvres pré-posthumes, et un recueil de récits qui s'appelle Noces. Et puis, il y a, si j'ose dire, surtout ce massif devant lequel nous nous trouvons, ce sont les journaux de Musil.
Les journaux, nous les attendions avec impatience. Mais il y a là de quoi faire un très grand nombre de thèses de doctorat. Nous avons lu ces 1700 pages avec beaucoup de bonheur et une certaine difficulté. Disons d'abord qui est Robert Musil, parce que tout le monde n'est pas obligé de savoir que Robert Musil est né en 1880 en Autriche, à Klagenfurt, qu'il était le fils unique d'une famille, mon Dieu, fort bien établie, où les gens étaient ou des militaires de haut niveau, ou des administrateurs, des commis de l'État, où il y avait un peu de fortune, et que Robert Musil, au bout de 60 ans de vie, est mort dans la misère et pratiquement inconnu.
Enfin, il est mort en exil en Suisse, à Genève, en 1942.
C'est ça.
Dans ses journaux, il y a une série de textes qui ferment l'édition des journaux.
Qui très extraordinaire, qui s'appelle Autobiographie.
C'est ça.
Et il y en a même une qui est destinée à un éditeur londonien à titre de publicité.
C'est ça, oui. En ce qui concerne la famille, la carrière de Musil, voilà comment Musil lui-même se définit. Père, vieille famille autrichienne de fonctionnaires, universitaire, ingénieur et officier. Grand-père, l'un des 4 constructeurs du premier chemin de fer du continent. Cousin, le célèbre orientaliste Alois Musil, membre de la Royal Society. Destiné à la carrière des armes, c'est-à-dire lui-même, a découvert ses aptitudes techniques en étudiant l'artillerie. Décide brusquement d'abandonner l'école militaire, avant même de commencer sa formation d'officier, et étudie la construction mécanique à l'école polytechnique de Brune. Oui, c'est une des choses capitales de sa formation. Il a eu à la fois une formation mathématique et en même temps une formation de philosophe. Il va combiner des études à l'école polytechnique de Brune, en Moravie, où enseignait son père, puis à l'école polytechnique de Stuttgart, et des études très poussées de philosophie.
Et de psychiatrie.
Oui, à l'université de Berlin. Il va même soutenir une thèse de doctorat sur le philosophe Marx. Cette thèse, d'ailleurs, le fera paradoxalement renoncer à la carrière universitaire.
Oui, il a renoncé à la carrière militaire pour laquelle il avait les brevets suffisants. Il a renoncé à l'enseignement universitaire pour lequel il était déjà nommé. Et il commence à écrire.
C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il publie ce premier livre qu'il publie très tôt, Les désarrois de l'élève Thurless.
Incroyable,
ça,
à 24 ans.
Non, plus tard, un petit peu plus tard, en 1906, il
c'est
le publie.
Ça.
C'est-à-dire
qu'il
avait 26 ans. Oui. Et ce livre, d'ailleurs, fait, dans une certaine mesure, scandale. Je crois que cette compénétration de la philosophie, de la science et de la littérature est évidemment essentiel pour Mousil et pour comprendre Mousil.
Ça donne justement la rigueur de son style où chaque mot est nécessaire.
Oui.
Et donne aussi, et évidemment c'était en lui puisqu'il a voulu faire ses études, ça donne aussi le savoir, en plus de la prescience, de ce qu'est l'individu, oui. De ce qu'est un être.
Et en même temps, c'est fondamental dans la formation de sa pensée, car Mousil va toujours osciller entre un désir de précision, presque hallucinant, et en même temps l'impossibilité d'atteindre à une précision suffisante. Donc, un constat d'échec total qui est en même temps un constat, si j'ose dire, de pouvoir littéraire.
Il faut dire que c'était un très grand poète. Sa prose, nous en lirons peut-être de tout petits fragments, il y a des notations sur la nature, sur le printemps, sur les routes, sur l'air, qui sont vraiment d'une écriture absolument admirable. Et tout de suite, quand on prononce à propos de Mousil le mot admirable, il faut adjoindre le nom de Philippe Jacotet pour nous Français, parce que sans Philippe Jacotet, il n'y aurait pas de vrai Mousil en France. Je me souviens de personnages, par exemple, l'un des personnages de l'homme sans qualité, qui est l'ouvrier Mosbrugger, dont on ne sait pas qu'il est fou et qu'il est l'assassin de plusieurs prostituées, où Mousil écrit « C'était un grand gaillard avec de fortes pattes débonnaires. » Il fallait que Jacotet trouve le débonnaire.
Oui, hein.
Et aussi « Une odeur âpre, sèche et loyale de jour ouvrable. » Salut Philippe Jacotet. Et en plus de ça, des choses comme « C'était un enfant de Dieu avec des menottes aux mains. » Ça, c'est admirable.
Et la tâche de Jacotet pour les journaux n'a pas été moindre que pour
pire,
les romans.
Pire.
Parce que l'édition allemande des journaux est très complète, pleine de notes, etc. Mais il faut s'y retrouver.
Il a été aidé par les éditions allemandes et italiennes, d'ailleurs.
Et italiennes, oui, oui. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, parce qu'il y a toute une histoire, il y a presque un roman posthume de la publication des œuvres de Mousil.
Alors, je crois qu'il est temps, Bernard, hélas, d'en arriver au lieu qui l'ont inspiré et qui l'a décrit, c'est-à-dire l'Autriche.
Oui, mais il n'a pas toujours vécu en Autriche.
Non, c'est Berlin, Genève, Zurich.
Oui, mais Berlin, je crois, a été très important pour diverses raisons, mais essentiellement d'ailleurs parce que, d'une part, il a vécu à Berlin de façon ferme pendant ses études, et puis ensuite, de 1931 à 1933,
en 1933,
il a quitté l'Allemagne aussitôt, Hitler installé au pouvoir, et c'est à Berlin qu'il a publié le premier volume de L'Homme sans qualité, qui a été le seul volume véritablement publié de son vivant. Ensuite, des chapitres ont été publiés, mais pas le second volume. Et c'est aussi à Berlin qu'il a vécu de la manière la plus ouverte sur le monde de l'art et de la littérature. Il a même fait des chroniques de critiques de théâtre à Berlin. Le retour à Vienne, évidemment, coïncide aussi avec un approfondissement de L'Homme sans qualité, mais coïncide avec aussi le sentiment de plus en plus flagrant de l'échec du monde occidental, de l'impossibilité de mener à bien quelque chose dans ce monde.
Oui, alors il a quand même grandi dans un pays où persistait le mythe habituel depuis des siècles de la puissante Autriche-Hongrie. Seulement, il s'en est rendu compte très vite, la puissante Autriche-Hongrie n'existait plus. L'Autriche était très influencée par l'Allemagne, certes, mais essentiellement par l'Europe. Et aussi, elle était cette pré-Asie qu'est la Turquie.
Oui.
Il note quelque part, je ne sais plus où, que l'Autriche était au croisement des vieux axes du monde.
Oui, et c'est pas un hasard, bien sûr, s'il situe au moins toute la première partie de L'Homme sans qualité dans une belle journée d'août 1913, c'est-à-dire juste à la veille de la guerre mondiale.
L'écroulement de
l'Autriche. Mais lui, si j'ose dire, a les pieds dans l'Autriche en décombre, enfin, et il va être obligé de fuir l'Autriche comme il a quitté Berlin en 1938, après l'invasion de l'Autriche par Hitler.
Puisque nous en sommes à la biographie, il faut ajouter qu'il a épousé une femme tout à fait admirable, qui, elle, avait déjà deux enfants d'un autre mariage, enfants que Mousil a très bien élevés. Il était très attaché à sa femme, et elle à lui, et elle a été le premier éditeur, si je puis dire, des ouvrages dont nous n'avons pas encore parlé, dont notre fonction est de parler aujourd'hui et mardi prochain, c'est-à-dire les journaux.
C'est ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut quand même mettre l'accent sur le fait que Mousil s'est intéressé de manière presque scientifique aussi, au développement du fascisme, du nazisme et même du communisme. Il y a des notations extrêmement aiguës sur Staline, par exemple.
Alors là, je vous arrête, parce que dans les désarrois de l'élève Dorless, le nazisme, en ce qu'il a de plus terrible, c'est-à-dire l'écrasement de l'individu par d'autres individus privilégiés pour telle ou telle raison, est déjà là en 1906. Il semble bien que les désarrois de l'élève Dorless, qui pour tout le monde préfigure en effet les camps de concentration,
Oui,
cet enfant, cet adolescent que ses camarades forcent à marcher à quatre pattes, à aboyer parce qu'ils l'ont surpris dans une tentation homosexuelle et qu'ils le font chanter en le torturant. C'est l'époque de D'Annunzio, pensez donc. D'ailleurs, il admirait D'Annunzio.
Il admirait beaucoup D'Annunzio, oui.
Alors, c'est l'énorme contraste. Et il semble que Musil soit beaucoup plus axé sur notre temps que ne l'était D'Annunzio,
bien sûr. Voilà d'ailleurs comment Musil lui-même définit toujours dans ses notices autobiographiques les désarrois de l'Esterless. Désarroi de l'Esterless, paru en 1906, plusieurs fois réédité. On pourrait voir dans ce roman la percée des nouvelles conceptions de l'éducation avec un éclairage psychologique nouveau sur les conflits de la puberté. Il est paru la même année que L'éveil du printemps de Wedekind et contemporain d'un autre produit viennois, la psychanalyse. Ça, c'est évidemment très important. Mais il trace les contours d'une représentation tout autre de l'âme et de la vie, représentation qui influence fortement la jeune génération, mais n'a trouvé qu'aujourd'hui tout son retentissement intellectuel, notamment dans les intuitions de la psychologie de la Gestalt. Un livre plein de cruauté et de tendresse et un récit passionnant.
Alors lui-même, dans une lettre à propos de Dorless et de la critique très remarquable, très flatteuse qu'un grand critique, Kerr, avait faite de ce livre, il parle de l'exploration des ténèbres qui fut pour lui déterminante. C'est quand même très important.
Oui, c'est essentiel.
Par exemple, dans un brouillon qu'il intitule « Testament 2 », et qui peut-être date de 1932, on n'en est pas sûr, il parle de Dorless en disant « Je leur racontais tout ce à quoi j'avais assisté oui. ». Donc il avait connu ces choses-là.
Oui, mais chez Musil, il y a un mélange absolument inextricable de biographie réelle et de biographie imaginaire. Dans « L'homme sans qualité », tous les personnages son Musil, le personnage central, est encore davantage Musil, le personnage central Ulrich, mais en même temps, il prête à Ulrich, et en particulier à la fin du livre, des passions et des aventures qui ne lui sont absolument pas arrivées. Le rapport entre Ulrich et sa sœur Agathe n'a pas pu arriver à Musil pour la simple raison qu'il n'avait pas de sœur. Oui. Mais il a toujours été hanté par ce thème de la passion incestueuse.
Que ce n'était pas seulement une histoire incestueuse, c'était une histoire métaphysique. Oui. Parce que ce qu'il cherchait, c'était l'union absolue. Il parle quelque part de la gemellité et oui. qu'il faudrait qu'il y ait des jumeaux qui soient en même temps des siamois.
Oui, il y a même un poème aussi de Musil qui a été publié, traduit par Philippe Jacotet, dans le numéro de l'Arc consacré à Musil qui s'intitule Isis et Osiris. Oui. Et c'est un poème justement sur les rapports amoureux, incestueux, et presque anthropophagiques d'ailleurs, d'un frère et d'une sœur.
Ça a quelque chose de grec à la limite.
Oui,
quelque chose de l'Olympe.
C'est l'essai de retrouver une unité dont Musil sait très bien qu'on ne peut pas la retrouver. Parce que ce qui me paraît essentiel et tout à fait singulier chez Musil, mais ça se lie aussi à sa formation scientifique, c'est que pour lui, la vie et la littérature sont terrain d'expérience. Il prend des éléments réels, tout à fait réels, et qu'il observe avec une acuité extraordinaire.
Entomologiste.
Absolument. Il les déplace dans des situations irréelles, presque impossibles. Et il réfléchit sur le contenu de cette expérience. C'est peut-être même ainsi qu'il a vécu. Par exemple, il dit dans son curriculum vitae, il finit par se rendre à Berlin parce que les tensions et les conflits de la vie intellectuelle allemande y sont plus sensibles qu'à Vienne. En 1913, après la création du Troisième Reich, et bien qu'aucune contrainte extérieure ne pèse sur lui, il tourne
sur lui,
le dos.
Musil.
C'est ça, il tourne le dos à l'Allemagne, vit depuis lors à Vienne en sacrifiant tout à l'achèvement de son œuvre principale. Il écrivait ça en 1938. Et il se donne lui-même comme surnom
le vivisecteur.
C'est ça, au tout début de ses journaux, dans des textes qu'il a écrits très très jeune, à 19 ans, il dit « Je veux écrire un grand livre, l'obsession du grand livre est toujours présente, et le héros de son grand livre sera Monsieur le vivisecteur. »
De l'âme.
De l'âme.
Nous avons, mardi dernier, tenté d'aborder les journaux de Robert Musil, publication tant attendue, réalisée en français par notre merveilleux traducteur Philippe Jacotet, et qui comprend à peu près 1700 pages plus 150 pages de notes. C'est énorme. Il faut dire que ces journaux, Robert Musil, l'auteur de L'homme sans qualité, des désarrois de l'élève Turles et d'autres œuvres moins connues en France, Musil a commencé à rédiger ces journaux à l'âge de 19 ans. Rappelons que Musil était autrichien, qu'il était fils d'une famille assez fortunée, très bien installée, et qu'il a été d'abord formé par une éducation militaire, et il était déjà officier, quand il a renoncé à l'être, qu'il a commencé des études de mathématiques très poussées, il était déjà ingénieur, quand il s'est révélé un goût profond pour la psychologie et qu'il a fait des études de psychologie et de psychiatrie, et que tout cela, en même temps que réalisant les postulations et les curiosités de son esprit, a contribué à faire de lui l'immense écrivain de notre temps qu'il est.
Oui, et a contribué aussi à faire de lui l'espèce d'écrivain impossible, enfin, puisque il a publié plusieurs récits, romans, nouvelles, pièces de théâtre, mais il est surtout l'auteur d'un grand livre auquel il a travaillé une trentaine d'années presque, qu'il a laissé inachevé.
Mais pouvait-elle être achevée?
C'est ça, qui ne pouvait sans doute pas être
achevée.
Personne
ne pouvait l'achever.
Non, même pas Musil lui-même.
Même pas Musil lui-même.
Pour des raisons de tous ordres, il y a eu des raisons économiques, parce qu'il avait commencé sa vie dans une relative aisance, il l'a terminé presque dans la misère,
oui,
en exil en Suisse, puisqu'il avait quitté l'Autriche devant les nazis, il avait d'ailleurs quitté auparavant Berlin devant la prise du pouvoir d'Hitler, mais en même temps, dans l'ambition même de l'homme sans qualité, il y a une sorte d'impossibilité à terminer ce livre qui devait être une somme, mais une somme qui se détruisait elle-même en quelque sorte, parce qu'il s'agit d'un roman qui d'une part décrit toute une époque, la fin de la monarchie austro-hongroise, la fin d'un monde, mais en même temps qui est le roman le plus individuel possible, le roman du doute sur l'homme, sur la personnalité. Vous avez souligné les études de psychologie de Musil, c'est extrêmement important. Musil est l'écrivain de la négation du moi, de la négation de l'homme comme un tout. Et le titre même du roman, il y a l'homme sans qualité et puis il y a les qualités sans l'homme.
Oui.
Et entre les deux, il n'est pas possible d'établir le pont que la littérature romanesque du 19e siècle établissait tout naturellement. L'œuvre de Musil, c'est aussi un constat de cette impossibilité.
Oui, alors quand même, il faut dire que dans L'homme sans qualité, et nous allons tout de suite revenir aux journaux, dans L'homme sans qualité, il y avait cette Autriche-Hongrie qui avait l'air florissante et qui apparemment l'était. C'était un mythe d'une dynastie puissante. Et elle survivait en réalité, comme il dit admirablement, que par la force de l'habitude.
Oui, aussi symboliquement, une des actions de l'homme sans qualité, c'est les personnages qui essaient de réaliser ce qu'ils appellent une action parallèle.
Oui.
Et cette action parallèle, en fait, est vide et creuse, et masque d'ailleurs de sordides intérêts personnels, enfin
non,
économiques.
Nationaux,
oui, même.
Oui,
oui.
L'intérêt de l'Allemagne sur l'Autriche.
Oui. Mais nous avions terminé l'émission de la fois dernière en parlant de ces toutes premières pages des journaux et de cette ambition de Musil d'être Monsieur le vivisecteur.
Oui, alors c'est Monsieur le vivisecteur, d'ailleurs, c'est écrit en français. C'est la première page du journal, 19 ans, et ça s'intitule « Feuillet du nocturnal de Monsieur le vivisecteur ». Vivisecteur est celui de l'âme. Et il écrit « J'habite la région polaire. Si je vais à ma fenêtre, en effet, je ne vois que de calmes surfaces blanches qui servent à la nuit de piédestal. Je suis soumis à une sorte d'isolation organique. Je repose sous 100 mètres de glace. » Pareille couche donne au regard de qui s'est ainsi confortablement enterré des perspectives réservées à celui-là seul qui a mis sur son œil 100 mètres de glace. Alors là, nous avons cette espèce de distance, de détachement que l'œuvre de Musil nous donne le sentiment de vivre. Ce qui est très très curieux parce que nous sommes terriblement pris par son œuvre, mais nous avons toujours, en refermant des pages, le sentiment que c'est écrit de loin.
Parce que Musil veut toujours combiner la littérature et la science. Mais en même temps, il sait bien que cette combinaison n'est pas totalement possible. Il n'y a pas une sorte d'optimisme du progrès chez Musil. En entendant cette formule, combiner la littérature et la science, on pourrait penser à Zola, par exemple. Ce n'est pas du tout la même chose chez Musil.
Ce n'est pas du tout événementiel, comme on dit aujourd'hui.
L'emploi des méthodes scientifiques sert à introduire un doute sur la légitimité de la littérature, mais en même temps, la littérature supplante en quelque sorte la science, parce que pour Musil, en fin de compte, l'art est supérieur à la connaissance, je crois.
Mais alors ça, il faut noter aussi la deuxième page de ce premier tome. Monsieur le vivisecteur, c'est moi. Ma vie, les aventures et l'odyssée d'un vivisecteur de l'âme au début du XXe siècle. Qu'est-ce que monsieur le vivisecteur? Le prototype, écoutez bien, le prototype du futur homme-cerveau peut-être. Mais les mots ont tous tant d'arrière et de double sens, d'arrière et de double connotation, qu'il vaut mieux garder avec eux ces distances.
Oui, mais en fait, c'est tout à fait symbolique que cette page soit la première page du journal, parce que le journal est véritablement l'œuvre du vivisecteur, c'est-à-dire de l'homme qui dépèce la réalité et la littérature, les deux choses étant étroitement mélangées, et qui les prépare pour faire un autre être, cet être étant l'homme sans qualité. D'ailleurs, ça a un aspect assez vertigineux, ce journal. Et peut-on dire une préparation de l'homme sans qualité? Mais c'est une préparation qui n'est pas entièrement absorbée par l'œuvre et qui dépasse l'œuvre aussi. Pas seulement parce que l'homme sans qualité n'est pas terminé, mais parce que l'homme sans qualité, à partir d'un certain moment, ne peut plus absorber tout ce que Musil note dans le journal.
C'est pour ça que ça ne pouvait pas être terminé.
Et ce jeu de l'intellect et de l'écriture est absolument fondamental. Musil dit par exemple, « Regarde-t-on autour de soi ?» On voit que c'est justement l'intellect qui se révèle le plus apte et à former et à remplir une vie humaine. Dans le domaine sensuel, le fiasco est difficile à éviter. Une certaine infécondité lui est inhérente. Qu'est-ce que cette orientation m'a apporté de toute une année? Combien rares furent les heures pleines? Le tout acquis au prix d'un sacré bousillage mental. Caractéristique de l'infécondité, le fait que la grande œuvre me semblait inaccessible, hors des stimulations de la solitude et de la suggestion et d'un isolement proprement hallucinatoire. En Musil écrit ça vers 1900. Le journal n'est pas toujours daté. Il a 20 ans et il va vivre cette situation pendant une trentaine d'années. Encore après.
Il y a aussi, dans ce journal, dès le début en effet, des notations qui sont très importantes. Comment il vivait son art, du moins à cette époque de sa jeunesse? Il dit « La condition de l'art est l'ivresse. Ses causes, l'excitation sexuelle, les grandes convoitises, la fête, la joute, l'extrême agitation. Essentiel, sentiment d'intensification de la force, de la plénitude. Et encore un peu plus loin, ceci, qui fait en quelque sorte contraste avec ce que je viens de dire pour montrer à quel point toutes les postulations étaient en lui. Tout homme est un cimetière de ses pensées. Pour nous, le plus beau moment est celui de leur naissance. Ensuite, il nous arrive souvent d'éprouver tout au fond de nous-mêmes une vive souffrance à constater qu'après nous avoir ravis, elle nous laisse indifférents.
Oui, et je continue parce que c'est aussi une page que j'avais notée. L'heure du plus profond silence est entre minuit et une heure de notre âme quand elles sortent de leur tombe et nous apportent chacune un morceau perdu de nous-mêmes. Dès lors, nous ressentons autrement notre moi et nous faisons silence parce que nous comprenons la nécessité qui les fait nous quitter sur le coup d'une heure.
Ouais, c'est très
beau. Et ça rappelle le titre que vous aviez cité tout à l'heure, que Musil avait donné à son journal, le Nocturnal.
Le Nocturnal. Et aussi des choses très importantes. Nous ne pensons pas au sujet de quelque chose. Quelque chose se pense et émerge en nous. La pensée ne consiste pas en ceci, que nous verrions distinctement quelque chose qui se serait développé en nous, mais en ceci qu'un développement interne accède à ces zones claires. Là réside la vie de la pensée, elle-même est contingente, un symbole, c'est-à-dire qu'elle peut souvent être morte. C'est seulement lorsqu'elle est le membre terminal d'un développement intérieur qu'elle suscite le sentiment de l'accomplissement et de la certitude.
Oui, et Musil se pose toujours cette question essentielle, la question de la vérité du moi et de la vérité de la pensée.
Oui.
Et il les soumet, ces deux propositions, à une critique impitoyable,
à une vivisection
véritable. Il dit aussi « Depuis que je me suis éveillé à la vie, je conçois les choses autrement », c'est-à-dire tantôt des critiques claires, tantôt des propositions claires, approfondies. J'en ai écrit et publié une partie. Mais il en est resté beaucoup sous forme de sourde résistance,
ouais.
Des choses qui émergent à moitié, puis sombres à nouveau, de vastes ensembles de pressentiments, mais l'entendement n'a pas suivi. Il dit « Je renonce à la systématique et à la preuve exacte. Je veux simplement dire ce que je pense et faire comprendre pourquoi. » C'est essentiel parce qu'il n'y a pas chez Musil du tout de chute dans l'irrationalisme. C'est ce qu'il a détesté aussi.
Oui, attention. Il n'y a pas de chute, mais il y a une extraordinaire analyse
c'est
de
ça,
l'irrationalisme.
C'est ça, c'est justement ce que je voulais dire.
Oui, le fou qui n'est pas fou, Mosbrugger.
Oui, dont on a parlé la fois dernière.
Et alors l'admirable musicienne Clarisse qui regarde son anneau de mariage et qui dit « Il n'y a rien dans son centre et on dirait pourtant que le centre est la seule chose qui lui importe. »
Oui, c'est une admirable définition d'ailleurs du projet de l'œuvre de Musil, L'homme sans qualité. C'est
aussi
essayer de trouver un centre et l'impossibilité de trouver ce centre.
Et aussi pour Clarisse, l'impossibilité de se constituer une identité puisqu'elle va devenir folle.
Oui. Et les journaux, par leur composition même, aussi rendent compte de ça. Ça n'en rend pas toujours la lecture plus facile. Mais Musil a écrit en même temps, pendant la même période, des cahiers différents dans lesquels il notait des choses tout à fait différentes.
Il faisait des choses terribles pour nous qui essayons de l'analyser. Il copiait des pages entières de Nietzsche, d'un tel ou d'un autre. Il ne mettait pas de guillemets.
Oui, il y a des pages d'ailleurs très belles de Nietzsche, et j'avoue que en les lisant, je me disais c'est extraordinaire.
Ça ressemble à Nietzsche.
Et ça ressemble à Nietzsche, et c'était du Nietzsche. Mm. Mais il va plus loin même. Par la suite, il y a des cahiers constitués de notations à seconde puissance sur d'autres cahiers qui apportent des matériaux pour son œuvre.
Il y en a
une quarantaine, oui, mais on ne les a pas tous retrouvés. Je crois qu'il faudrait aussi raconter l'histoire de la publication de l'œuvre de Musil, qui est une histoire quasi musilienne, depuis d'ailleurs la publication du premier volume de L'homme sans qualité, vers 1930. Le problème de la publication s'est posé, Musil n'a pas pu le résoudre. Il y a d'ailleurs des textes qui ont disparu lors des bombardements de Vienne. Mais après sa mort, sa femme, dont vous avez dit que c'était un personnage tout à fait remarquable, a voulu publier l'œuvre. Et un philologue allemand, Adolphe Frisé, s'est attelé à cette publication. Mais nous en sommes maintenant à la troisième version de L'homme sans qualité, et les manuscrits existent maintenant dans un fonds Musil qui a été mis sur ordinateur.
Ah, c'est extraordinaire, c'est vrai.
Pour essayer de rechercher les correspondances thématiques et le lien entre les correspondances thématiques et la succession chronologique.
Mais ça, c'est pour les auteurs de thèses futures.
Oui, il y a déjà, j'imagine, beaucoup de thèses là-dessus. Alors, ça nous dépasse largement, évidemment. Mais ça rend bien compte aussi de cette impossibilité fondamentale de l'œuvre que l'on constate chez Musil, plus, je crois, que chez aucun autre écrivain du XXe siècle. Peut-être d'ailleurs parce que son ambition a été l'une des plus grandes. Musil n'est pas un écrivain qui renonce à la littérature pour l'action, c'est pas Rimbaud, bien sûr. Ça n'est pas non plus un écrivain qui va se contenter de fragments et faire une théorie de la fragmentarisation. C'est un écrivain qui postule une totalité et qui sait que cette totalité est impossible. D'où d'ailleurs ces critiques virulentes et parfois très drôles, parce que le Mousil ne manque pas d'ironie.
L'ironie est un des dons de Ulrich, le héros de L'Homme sans qualité.
Oui, c'est aussi la distance que Mousil a vis-à-vis de ses personnages. Cette ironie, elle est constante. Dans le journal, elle est parfois mordante et très très drôle. L'attitude de Mousil vis-à-vis de Thomas Mann en rend bien compte. L'ironie que Mousil exerce aux dépens de Thomas Mann, qui est lui l'homme, si j'ose dire, des totalités tranquilles.
C'était « Étranger, mon ami ». Les 12 et 19 janvier 1982, Dominique Arban recevait sur France Culture Bernard Dort pour évoquer la parution du journal de Robert Musil aux éditions du Seuil, traduit par Philippe Jacotet. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».